Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radion, et vous avez bien raison, il est 11h passé de quelques minutes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous continuons à explorer d'anciens numéros de votre émission littéraire et à redécouvrir la variété mais aussi la richesse des rencontres partagées avec vous depuis novembre 2010, date de l'apparition de Wagon Livre dans la grille des programmes de Radion. Alors aujourd'hui, il sera question de l'histoire de notre drapeau tricolore avec Raphaël Delpart, cinéaste et romancier, auteur de la fabuleuse histoire du drapeau français aux éditions Quai de Seine. Et puis, en suivant les traces du loup en Bourgogne avec Gilles Plattret, qui est actuellement maire de Chalon-sur-Saône, nous aurons l'occasion d'évoquer le mythe du loup-garou. Nous aborderons le continent du crime avec Didier Roth-Bettoni pour évoquer quelques-uns des 70 faits divers qu'il a recensés dans son grand livre des faits divers, paru en 2015 aux éditions Hors Collection. Il reviendra notamment sur l'affaire Patrick Henry qui défraya la chronique en 1976. Nous vous inviterons à un détour par le palais de l'Élysée avec Patrice Duhamel qui en 50 ans de carrière journalistique s'est rendu plus de 3000 fois dans ce palais initialement édifié pour Madame de Pompadour. Y a-t-il une malédiction qui plane sur l'Élysée ? On pourrait en tout cas le croire en écoutant Patrice Duhamel. Mais je vous propose de commencer notre émission avec Colombe Schneck, que j'avais rencontrée en juin 2018, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne à Dijon. Elle était venue présenter son dernier texte, « Les guerres de mon père », et elle évoquait, bien sûr, la figure paternelle d'origine juive, qui avait dû d'ailleurs être cachée durant l'occupation, pour échapper aux persécutions antisémites. Colombe Schneck.
Dans ce livre, je dirais qu'il y a deux courants. Un premier courant qui était la colère. C'était le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai pu lire les archives de Vichy, qui sont maintenant, vous savez, ouvertes au public. Et donc, vous pouvez lire des télégrammes de préfets, de gendarmes qui organisent le ramassage, comme ils disent, hein. Ce ne sont plus des êtres humains, de femmes, d'enfants... d'hommes. Et donc on peut lire très simplement hein, les noms dans l'établissement des rapports, dans les factures de clôture, dans les factures de notes d'essence pour faire ce ramassage. On peut lire le nom de tous ceux qui ont participé à cette entreprise de destruction. Et donc quand vous lisez ces noms et que aucun n'a vraiment été puni hein, après la guerre, vous avez un sentiment de colère. Et puis cette colère a été transformée parce qu'en allant en Dordogne, en allant à Périgueux, en allant aussi aux archives nationales, en retrouvant aussi des lettres de ma grand-mère, j'ai compris que si mon père avait été sauvé, comme beaucoup d'enfants juifs français, s'il avait aussi gardé une foi dans l'humanité, il aimait les gens. C'est parce que pendant la guerre, il avait rencontré des hommes et des femmes, des enfants qu'il avait cachés et hébergés, des justes, mais qui n'ont jamais été remerciés. Et c'était important pour moi d'aller les retrouver et de pouvoir les remercier un à un. J'en ai retrouvé peu, je n'ai pas retrouvé leur nom à tous, mais j'ai retrouvé par exemple Charles Schmitt, qui est instituteur, qui a gardé tout un petit groupe de garçons juifs pendant la guerre dans son école à Nautron. J'ai retrouvé Thérèse Moreau, qui était couturière et qui cachait mon père les soirs de rafle. Et c'était important pour moi de montrer, de rappeler qu'en France, beaucoup de gens ont choisi le bien.
Parce qu'effectivement, c'est aussi une réflexion sur le choix du bon camp. C'est bon, c'est un peu manichéen. Il y a le bien, le mal, la barbarie. Et finalement, vous, votre narratrice se pose la question, pourquoi les préfets, vous donnez leur nom, vous ne les avez pas changés, ce sont de véritables
identités. Oui, c'est les vrais noms, je peux rappeler leur nom.
Maurice Labarthe, René Rivière, Jean Popineau. Oui. Vous posez la question, mais pourquoi ces hommes qui étaient peut-être de très bons papas avec leurs enfants ont envoyé des enfants juifs en camp de déportation? C'est une vraie question, ça. Oui.
On a arrêté les résistants. Je pense à Jean Popineau, hein, qui a été très actif dans l'arrestation des résistants, qui a demandé à l'aide à la Gestapo pour faire arrêter les résistants et les juifs de sa région à la fin de la guerre. Jean Popineau n'a jamais vraiment été puni, hein. Il a été mis de côté de la préfecture et puis en 61, il a pu rattraper les aides salaires qu'il n'avait pas reçues.
Il y a ceux qui demandent la Légion d'honneur,
qui
prétendent en tout cas et qui l'obtiennent en plus.
Oui, Maurice Labarthe a eu la Légion d'honneur en Algérie peu de temps après la guerre. Oui, pourquoi ? J'avais été assez obsédée par cette question. Pourquoi Thérèse Moreau ou Charles Schmitt et d'autres vont faire le bien, et d'autres qui ont une bonne éducation, qui sont des grands bourgeois catholiques, qui sont peut-être des bons pères de famille, des bons maris, vont-ils oublier leur humanité, obéir à des lois injustes? Et je crois qu'il s'agit d'une capacité à accepter la solitude, à accepter de penser seul, à perdre ce qu'on a. Les préfets, comme Jean Popineau, en désobéissant, avaient beaucoup à perdre. Ils perdaient une carrière, une fonction, un statut social, pour se retrouver avec moi. Je crois qu'il s'agit de ça, oui, une capacité à accepter qu'on peut tout perdre et qu'on peut se retrouver seul. Alors. Et c'est ça qui permet, il me semble, de bien se comporter éventuellement dans une situation complexe, disons.
Mais vous aimez ceux qui, justement, sont capables de désobéir. Et un peu plus tard, d'ailleurs, votre père, Gilbert, en lisant ce fameux livre « L'établi », apprend qu'il y a un ouvrier, alors qu'il est d'origine maghrébine,
algérien,
et qui lui refuse d'appliquer les nouveaux horaires qui ont été imposés par la nouvelle direction de l'usine et qui s'en tient aux anciens et qui finalement résiste, quoi, désobéit.
L'établi raconte l'itinéraire, c'est le récit de Robert Linhart, jeune étudiant qui va partir travailler dans une usine Renault qui choisit d'appliquer ses idées, ne pas seulement les pratiquer de manière théorique. Et il rencontre Ali qui, comme lui, refuse. Et Ali, quand Robert Linhart lui apprend qu'il est juif, Ali, dont on ne donne pas le nom de famille, lui dit « c'est pas possible parce que le juif, c'est le mal ». Et là, il y a une incompréhension entre eux. Robert Linhart n'arrive pas à lui expliquer que ça n'a rien à voir, qu'on peut être juif et bon, que et pour Ali, non, on est juif, le juif c'est le mal. Il lui raconte qu'enfant en Algérie, dans le village où il vivait, la viande était réservée aux chiens des militaires français. Et pour lui, il en reste là. Le juif, c'est le mal. Et il se quitte sans pouvoir, sans pouvoir se comprendre et sans pouvoir lui expliquer qu'il se méprend.
Et vous parlez aussi de ces Algériens et Marocains qui ont été enrôlés dans la milice française par l'antisémitisme de certains Arabes.
Alors, je ne sais pas si c'est l'antisémitisme. C'est peut-être plutôt la pas du gain. C'est ce qu'on appelle la phalange... comment elle s'appelle, ça va? Phalange arabe, une sorte de phalange arabe qui recrutée par la Gestapo à la fin de la guerre pour seconder
la phalange nord-africaine.
C'est un écrivain de Dordogne qui a fait toute une qui s'appelle Patrice Rolly qui a fait toute une un travail sur cette phalange. En fait, c'est pas l'antisémitisme, c'est plutôt l'appât du gain. Ils n'ont pas vraiment de religion entre guillemets. Ils n'ont pas de Ils ne sont pas hitlériens, collaborationnistes, je ne sais pas comment dire, je ne sais plus parler français. Ils sont bien payés, ils ont un bel uniforme et donc ils acceptent de seconder la Gestapo pendant quelques mois en Dordogne.
C'était Colomb Bechenec, rencontré et enregistré à Dijon le 27 juin 2018 pour son roman « Les guerres de mon père ». Le dernier roman de Colomb Bechenec, paru en 2019, s'intitule « La tendresse du crawl » et demeure toujours disponible en librairie aux éditions Grasset. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Nous vous proposons une première pause musicale et nous revenons juste après avec Didier Rodbétoni pour évoquer le grand livre des faits divers, meurtres en série, crimes passionnels, séquestrations, drames familiaux. Merci d'être avec nous.
Audrey, je sais, je fais tâche dans ton équipage et à quoi je sers. Audrey, l'amour ça fait mal, l'amour ça remue, l'amour ça s'en mêle. Si belle, elle baigne ses pinceaux dans les aquarelles. Audrey, je sais bien, je suis pas roi, j'ai pas vraiment de toi, je vis pas sur la terre, tu sais, si on veut, on voit, s'il te plaît, essaye-moi, je suis peut-être à tes airs. Audrey, l'amour, ça transpire les murs, se transforme dans ton atmosphère, et l'air qui m'inspire ces mots. De pas de l'enfer, à deux pas de ma rue. Sur ces lettres, les lignes de ton être, les vignes sur tes lèvres. J'épouserai ta silhouette sur une cigarette dans le coin d'un rêve. Faudrait que tu le lâches, faut pas que tu nous gâches.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons notre émission avec un extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé le 13 janvier 2016 sur Radion. Ce jour-là, notre invité était Didier Rodbétoni, venu présenter le grand livre des faits divers, coécrit avec Nathalie Veille. Un livre qui présente plus de 70 affaires criminelles et notamment des affaires célèbres qui ont défrayé la chronique et qui sont entrées dans l'histoire par leur résonance dans la société. Ce fut le cas en 1976 de l'affaire Patrick Henry, sur laquelle revient Didier Rodbétoni.
Cette affaire qui, dans les années 70, au milieu des années 70, 76, le crime sur un petit enfant, un petit garçon à Troyes, juste à côté de Troyes, par Patrick Henry. Ce crime qui a provoqué une grande émotion partout dans le pays, notamment à cause de la personnalité de Patrick Henry, qui a été défendu par Robert Badinter.
Et qui a 23 ans, qui est un jeune homme.
Qui était un tout jeune homme proche de la famille de l'enfant qu'il a enlevé puis tué. Tout jeune homme qui se présente à la télévision après la disparition de l'enfant et qui dit il faut appliquer la peine de mort pour le criminel quand il sera arrêté. Donc voilà, c'est un personnage tout à fait étonnant, qui est donc défendu par Robert Badinter. personnage indéfendable en tant que tel, mais Badinter va avoir ce génie en 1976 de transformer le procès de Patrick Henry en procès de la peine de mort. Et même si Patrick Henry va être condamné, ça va être le début du commencement de ce qui va aboutir en 1982 avec Robert Badinter à nouveau comme ministre de la Justice qui abolit la peine de mort. Donc, et il y avait eu plusieurs décennies précédemment, juste avant la Seconde Guerre mondiale, l'affaire Eugène Weinmann qu'on raconte également. Eugène Weinmann, en France, dans les années 30, le débat sur la peine de mort était déjà posé. Eugène Weinmann tue 6 personnes de façon totalement gratuite dans la France de l'époque. À l'époque, les mises à mort se font en place publique, les décapitations se font en place publique. Sa mise à mort, son passage sous la guillotine, là aussi provoque véritablement beaucoup de remous parce qu'elle est filmée. On en trouve d'ailleurs les images sur Internet encore aujourd'hui, ce qui est assez vertigineux. Hein, en 1939, cette décapitation, ce guillotinage de Eugène Weinmann. Et ça provoque une telle émotion dans le pays aussi d'assister à ces images, de voir ces images pour la première fois, et même à l'étranger, qu'il est décidé que les exécutions capitales se feront désormais dans l'enceinte des prisons, plus du tout en public. Donc on n'aura plus d'image de ça. Donc, et ça empêche, évidemment, ça coupe totalement l'herbe sous le pied de ceux qui voulaient abolir la peine de mort. Donc il y a toute une série comme ça d'événements criminels qui relancent effectivement des débats dans la société. C'est aussi ce qu'on a essayé de montrer, c'est comment des crimes, des faits divers sont en résonance avec ce qui se passe dans la société de leur époque.
Je reviens à la décapitation de Eugène Weinmann, donc c'est en juin 1939. Est-il vrai, alors là vous laissez planer un doute, Didier Rohde-Bettoni, que dans la foule se trouvait un acteur américain qui va s'illustrer par la suite dans les films de la Hammer sur Dracula? Est-ce que Christopher Lee était dans le public?
Alors c'est ce que lui a toujours raconté. On n'a pas de preuves formelles. Il avait 15-16 ans à l'époque, donc c'est possible. Il était en France à l'époque, donc c'est possible. Après, chacun réécrit aussi son histoire, hein, et surtout les acteurs. Donc, et puis c'était pour lui effectivement une forme de clin d'œil, de dire ben voilà, j'ai joué un criminel, un personnage amateur de sang dans les Dracula, et j'ai assisté à l'exécution d'un criminel, Eugène Weinmann, alors que j'étais un enfant. Donc voilà, ça fait partie des clins d'œil, ouais. Aujourd'hui, 80% des crimes sont commis par des hommes. Il y a deux exceptions, le crime passionnel et le crime sur enfant. Enfin, quand je dis crime sur enfant, c'est crime sur tout petit enfant, qui sont presque à 100% des crimes de femmes. Les crimes de nouveau-nés, c'est quasiment toujours des crimes de femmes. Mais dans tous les autres cas de figure, ce sont les hommes qui sont les criminels. Ou en tout cas qui sont arrêtés.
Je voulais vous taquiner justement, si les hommes se font arrêter, est-ce que les femmes sont-elles plus honnêtes ou plus malignes?
Ah, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, c'est un fait vraiment, vraiment permanent, et pas seulement en France, hein, un peu partout dans le monde, que le domaine criminel est vraiment un domaine, on peut le regretter, masculin très largement. On n'est pas obligé d'atteindre la parité dans ce domaine-là.
Arrêtons-nous sur les crimes familiaux. Alors là, dans les crimes familiaux, comme vous le disiez, ce sont les femmes qui commettent très souvent les infanticides.
Alors,
sur les petits-enfants.
Voilà.
Sur les très petits-enfants.
Très petits-enfants, oui. Les crimes sur enfants de 7 ans, même avant de 5 ans à 15 ans, enfin jusqu'à la majorité, sont largement des crimes d'hommes, hein, très largement. D'ailleurs, la plupart des serial killers sont des hommes, hein, et on sait qu'il y a une part de sexuelle qui entre dans ce cadre-là, et ce sont souvent des jeunes filles qui en sont les victimes. Hein, donc ça, ce sont des crimes d'hommes, mais des crimes sur tout petit bébé, ce sont des crimes de femmes. Ce sont des femmes qui souvent ont mal vécu leur propre maternité, parce que ce sont souvent à leurs propres enfants qu'elles s'en prennent. Pas systématiquement, mais très souvent. Voilà, donc il y a une vraie dichotomie dans ce domaine-là.
Très souvent, donc, problème lié, enfin, mental, psychologique, la folie ou une psychose qui rôde toujours
sûr,
dans
bien
ces
bien
affaires
bien
de crimes familiaux.
Il y a notamment une affaire qu'on raconte qui est assez assez incroyable, qui est celle de Bernadette Launay, qui est une, dans les années 80, donc c'est encore relativement récent, a deux reprises, à 17 ans d'intervalle, tué ses deux enfants. Deux enfants dans les années 80, deux enfants dans les années 90, tués exactement de la même manière par la même femme. C'est assez vertigineux. C'est quasiment un cas unique dans l'histoire du crime au monde. C'est-à-dire aucune, tous les spécialistes du crime qui se sont penchés sur ces questions-là ne connaissent pas d'équivalent à ce crime-là.
Mais est-ce que dans toutes les civilisations, quel que soit le continent, est-ce qu'on retrouve ces mêmes catégories de crimes en Afrique, en Asie
Je serais assez incapable de vous répondre. Oui. Je n'ai pas étudié la question de façon globale. J'imagine qu'il y a des types de crimes qui sont liés à certaines cultures ou à certains modes de vie, plus que d'autres. Pour en revenir aux serial killers, 75% des serial killers répertoriés ces 30 dernières années dans le monde sont américains. Et ce n'est pas seulement parce que c'est aux États-Unis que dans les années 60, pour la première fois, on a identifié cette catégorie-là. Pendant très longtemps, seuls les États-Unis ont reconnu la catégorie crime en série. C'est eux qui l'ont instituée dans les années 60. C'est le FBI qui institue ça. Ça ne sera en France réellement reconnu en tant que tel que dans les années 2000. Hein. C'est très récent, la reconnaissance du crime en série en France. Mais pour autant, les spécialistes qui travaillent, et notamment Stéphane Bourgoin, qui est un journaliste, un écrivain, qui a consacré sa vie à l'étude des serial killers, parce que sa femme a été elle-même victime d'un serial killer dans les années 70, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, tous les spécialistes, et lui le premier, disent que 75% des crimes identifiés aujourd'hui, des crimes en série identifiés, sont américains. Donc il y a aussi une spécificité, culturelle, nationale, de ce type de crime-là.
Je voudrais aussi rappeler, on a parlé des crimes familiaux, là je m'éloigne un petit peu des serial killers, l'affaire Véronique Courgeot. Alors, c'est cette femme qui a tué ses enfants et qui les a mis dans un congélateur.
Oui, c'est nouveau-nés, là, pour le coup. Ce ne sont même pas des enfants. Enfin, ce sont des enfants, mais c'est vraiment des tout nouveau-nés qui les a congelés, oui. On a parlé de déni de grossesse pour expliquer son geste. C'était une explication un peu rapide. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Mais là, pour le coup, c'est lié à une névrose, à une psychopathologie qui dépasse le cadre même du crime, pour le coup.
Alors, vous citez, on peut pas s'arrêter sur toutes les affaires.
Non, il y en a beaucoup.
Ce n'est qu'une invitation à aller se procurer le livre et à le découvrir, parce que c'est vraiment, vraiment passionnant. C'est à la fois angoissant, mais c'est aussi fascinant. Par exemple, l'affaire Violette Nozière, 1934, ce qui est justement le côté fascinant, c'est que les artistes, bon là en l'occurrence ce sont les surréalistes, vouent une fascination pour certaines figures criminelles.
Oui, c'est tout à fait, oui.
Alors bien sûr, ce qu'il faut aussi dire, Didier Rodbétoni, c'est qu'avec Nathalie Veil, vous avez recensé les films, les livres qui ont illustré ou qui se sont emparés de ces faits divers, des chansons aussi.
Oui, c'était une des, un des désirs de ce livre, c'était de voir comment, après avoir raconté des histoires réelles, d'essayer d'en décrypter les ressorts de toute nature et d'avoir relaté ces crimes, que ce soit l'histoire des Sœurs Papin, celle de Violette Nozière, celle de Jeanne Weinmann, celle de Patrick Henry, enfin toutes celles qu'on a citées jusqu'à présent, plus beaucoup d'autres, c'était d'essayer de voir comment le réel pouvait être ensuite récupéré, transformé par des artistes. Comment des écrivains, des cinéastes, des auteurs de chansons, des dramaturges pouvaient s'emparer d'une histoire réelle et en faire totalement autre chose quelquefois. Et c'était ça qui était intéressant, c'était comment un matériau réel devient un matériau de fiction. Et comment finalement, quelquefois, des grands faits divers, on a l'impression de les connaître parce qu'on a vu un film sur cette histoire, parce qu'on a lu un livre. Et pour autant, la réalité est totalement différente parce que des artistes ont réinventé ces histoires-là. Et je pense, bon, c'est pas une histoire française, mais on l'évoque quand même dans le livre, celle de Bonnie and Clyde, je pense que c'est quand même l'exemple le plus frappant. Quand on voit le film d'Arthur Penn avec Faye Dunaway et Warren Beatty, ou quand on écoute la chanson de Gainsbourg avec Brigitte Bardot, Bonnie and Clyde, on a l'impression que c'est un couple de criminels, mais glamour, d'espèce de Robin des Bois des années 20, des années 30. Alors, c'est pas ça du tout. C'est un couple assez sordide de tueurs à la petite semaine qui tirent sur tout ce qui bouge. La réalité est très différente de la fiction. Or, c'est l'image de la fiction qui est devenue la plus forte aujourd'hui. Et c'était ça qui était intéressant pour nous aussi, au-delà du récit de la réalité, c'était de voir comment la réalité nourrit la fiction et donne naissance à une autre réalité, finalement.
À l'instant, c'était Didier Rodbetoni dans un numéro de Wagon Livre diffusé le 13 janvier 2016 sur Radion. Je rappelle le titre de son livre, Le Grand Livre des Faits Divers, coécrit avec Nathalie Veil, est disponible toujours en librairie aux éditions Hors Collection pour approcher un peu du mystère des tueuses et des tueurs et pour vous embarquer dans l'immensité et la complexité du territoire criminel. Nous marquons une nouvelle escale musicale à bord de ce wagon-livre. Nous revenons juste après sur la piste et sur les traces du loup-garou.
Et pour un peu plus d'esprit, nanana, pour toi, mélodie, la douceur et les fleurs de nos jeunes années, aux yeux tournent un môme qui brille à cet instantané, à ta main et la mienne. Violente, douce, enlacée, dans les doutes et les pleurs, au creux des joies entraînées. Et ça va, ça vient, je te reviens dévasté, une fois de plus écœuré, écorché de ce monde entier.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Un petit coup d'œil sur le programme de Wagon Livre. Samedi prochain, 6 juin à 11h, je recevrai devant ce micro Éric Le Sonnet pour un recueil intitulé « Fables d'aujourd'hui » qu'il nous présentera. Ce sera pour nous l'occasion de faire connaissance avec Éric Le Sonnet, journaliste en presse radio et télévision. Il est l'auteur et le réalisateur de clips musicaux, de captations internationales, de films de prestige et de documentaires diffusés par toutes les chaînes françaises et dans le monde entier. C'est un passionné de littérature. Il est lauréat du prix de poésie Olivier Basselin de l'Académie normande des lettres, du prix de poésie Ouest-France et du prix Printemps des poètes de TV5 Monde, Éric Le Sonnet, qui sera donc notre invité la semaine prochaine dans Wagon Livre. Passons à la suite de ce radio-archive avec « Les loups dans l'histoire de Bourgogne », un ouvrage signé de Gilles Platret qui est devenu maire de Chalon-sur-Saône. C'est un livre consacré aux loups de Bourgogne et nous avons tous d'ailleurs des histoires de loups dans notre inconscient. Et autrefois, ce ne sont pas les loups qui vivaient au milieu de nos ancêtres, c'était nos ancêtres qui vivaient au milieu des loups. Alors bien sûr, le destin de la Bourgogne, région forestière s'il en est, était lié aux loups qui furent nombreux dans toute son histoire. Alors bien sûr, les petits Gévaudans sont recensés dans l'ouvrage de Gilles Platret, hein, du XVIIIe jusqu'au XIXe siècle, et bien entendu, les légendes locales attachées à cet animal mythique. Bref, une histoire de nos ancêtres dans l'un des aspects les plus cruciaux de leur vie et une partie finale de l'ouvrage consacrée aux loups-garous sur lesquels revient Gilles Platret.
Alors, c'est vrai que la dernière partie du livre est consacrée à l'imaginaire du loup. Parce que si les deux parties sont des parties historiques, j'ai voulu aussi voir comment la tradition s'était nourrie de l'histoire pour proposer certaines figures. Vous vous rappelez évidemment la figure du loup-garou. Je dirais simplement que on a sur cette figure-là des histoires très anciennes qui remontent au Moyen-Âge. Au moment des guerres de religion, on a même condamné à mort certaines personnes en les ayant accusées de s'être transformées sous le pouvoir du démon en loup pour commettre des meurtres. C'est d'ailleurs intéressant psychologiquement de voir un peu le cheminement qui amène à cela. Mais en tout cas, donc, c'était une croyance forte. Et puis avec le temps, elle dégénère. On y croit de moins en moins. Et au fin 19e, vous citiez cet exemple, assez fabuleux aussi, de certains personnages qu'on appelle loup-garou dans certains secteurs, qu'on appelle galipote dans l'autre, qui le soir venu se mettent sur la tête et sur le dos une peau de bête, peau d'ours, peau de loup, bien souvent, un drap parfois simplement, et qui vont courir la campagne pour effrayer les gens. Alors simplement gratuitement, ou dans le cas de ce prêtre que vous citiez, c'est en tout cas la justification qu'il a trouvée lorsqu'on l'a eu bastonné prestement pour lui faire terminer ses forfaits, qui a dit qu'il voulait absolument dissuader les jeunes gens de courir la nuit dehors dans des lieux de perdition et pour des jeux qu'on imagine volontiers interdits. Et donc il avait essayé de trouver ce remède de la peur pour y parvenir. Bon, il a fini couvert de bleu parce qu'on s'organisait, donc on n'y croyait déjà plus. Mais ça faisait toujours partie de l'imaginaire. Et je le dis parce que je l'analyse notamment sur certains cas. Dans certains secteurs, quand on fait vraiment de la micro-histoire dans des villages, les traditions de loups-garous naissent à partir du moment où on a des victimes de loups. C'est le cas, dans le sud de Bourgogne, où on a une tradition d'un loup-garou qui est en fait un lynx. Et quand on regarde les registres paroissiaux, dans les années 1760, on a une attaque de lynx sur deux jeunes filles qui a amené à la mort de ces jeunes filles. Et un siècle plus tard, la légende du loup-garou n'est plus celle du loup, mais du lynx-garou, si vous voulez. Donc c'est là aussi une richesse extraordinaire qui montre bien que nos légendes, nos traditions autour du loup se sont enracinées dans une réalité historique.
À l'instant, c'était Gilles Platret enregistré à Tonnerre en janvier 2011 pour son ouvrage « Les loups dans l'histoire de Bourgogne ». Je rappelle que Gilles Platret est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un diplôme d'études approfondies d'histoire contemporaine à la Sorbonne. Ses recherches ont porté sur l'histoire de la Bourgogne. Il a notamment publié des études sur la viticulture et la Seconde Guerre mondiale. Il est actuellement maire de Chalon-sur-Saône. C'est Wagon Livre sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de notre rendez-vous.
Hey, won't you hold me tight? Take me through the night. When the sun is up, promise I'll be by your side. Make me understand everything you said. Make it better, you gotta work it harder. Ooh, let it go, everything is alright. So bright, up all night, I'll stay by your side. Ooh, let it go, everything is alright. So bright, up all night, I'll stay by your side. Let me break.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Notre émission littéraire se poursuit avec un retour historique sur notre drapeau tricolore. En effet, lors du Salon du Livre d'Autun en 2012, j'avais rencontré Raphaël Delpar, cinéaste et romancier. À ce moment-là, il était venu présenter un ouvrage intitulé « La fabuleuse histoire du drapeau français », toujours disponible en librairie aux éditions Quai de Seine. Tout de suite, Raphaël Delpar pour l'histoire de notre beau drapeau tricolore.
Le drapeau s'est créé finalement au cours des 20 siècles. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que d'abord les trois couleurs sont permanentes dans l'histoire de France. Évidemment, elles sont permanentes, mais elles ne sont pas rationnelles, c'est-à-dire qu'elles ne suivent pas un chemin classique, etc. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont présentes, elles ne sont plus présentes, etc. Songez que le bleu, le blanc, le rouge étaient présents, par exemple, dans les tribus avant les Gaulois, les tribus dont on ne sait pas d'où elles venaient, mais qui se peignaient, ce qu'on appelle le drapeau sur peau, se peignaient le corps en bleu, en blanc, en rouge, et même parfois en bleu, blanc, rouge, enfin, pas forcément en bleu, blanc, rouge, mais en bleu, en blanc, en rouge, enfin, peu importe l'ordre, avec des dessins d'oiseaux, des dessins d'animaux, pour se reconnaître, parce que dans cette immensité, ils avaient peur de se perdre et de ne pas retrouver leur tribu. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Romains avaient le vexillum, c'est-à-dire un animal qui représentait telle unité, et lorsque le soldat, dans les combats, se trouvait perdu, il regardait où se trouvait le vexillum, c'est-à-dire l'image de son unité, et pouvait se repérer. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, beaucoup plus tard, qu'est né le porte-drapeau sous Louis VI, dit le Gros. Voilà. Donc l'histoire du drapeau français, c'est une histoire fabuleuse que j'ai découverte. C'est-à-dire qu'un jour, je me trouvais sous l'Arc de Triomphe à Paris, et je recommande à tout Français, et enfin tous ceux qui le veulent, et qui veulent ressentir une émotion très forte, de se trouver un jour sous l'Arc de Triomphe lorsque le grand drapeau est déployé. Et là, c'est une émotion immense, car cet immense symbole qui vient vers vous, qui vous caresse. Moi, j'ai eu l'impression que le drapeau me parlait et qu'il me disait « raconte-moi, raconte mon histoire ». Et peut-être que j'ai dû un peu trop fumer ce jour-là ou trop bu, mais en tous les cas, je me suis pris au jeu. Et pendant 10 ans, j'ai recherché dans les archives, j'ai traduit des textes du latin en français, j'ai traduit des textes du vieux français en français, pour être compréhensible, etc. J'ai trouvé des archives extraordinaires sur le porte-drapeau, notamment, etc. La naissance des couleurs, pourquoi ces trois couleurs, et aussi la symbolique du drapeau. On s'aperçoit que l'homme vit avec le drapeau depuis la nuit des temps, car c'est le drapeau, ce signe qui a pris des formes différentes, eh bien, et je viens de le dire, il a un langage, c'est un langage entre l'homme et lui, un langage curieux, un langage visible, mais qui a des codes à partir du moment où l'homme met les codes.
Et alors, moi je me souviens que mon professeur d'histoire nous expliquait que le bleu, blanc, rouge, le blanc est la couleur de la royauté, et que le blanc était prisonnier du rouge et du bleu qui étaient les couleurs de la ville de Paris.
Oui, c'est faux. Alors, le bleu a d'abord a été initié par Clovis. C'est la chape de Saint-Martin, c'est-à-dire la manteau de Saint-Martin qu'il a coupé en deux, qui était à l'époque, car Saint-Martin était un Hongrois, qui était engagé dans l'armée romaine, c'est-à-dire que la Rome n'avait pas d'armée, c'était des armées d'engagés en réalité. Il était Hongrois, son père était général, enfin, un grade très élevé, lui était simple soldat, et il a rencontré la foi du Christ, et il est devenu chrétien. Et à partir de là, entre autres choses, il y a cette fameuse histoire que tout le monde connaît, à Amiens, un soir d'hiver, il partage son manteau en deux, et c'est cette chape-là qui est devenue, cette partie de son manteau, qui est devenue le premier drapeau, la première couleur du drapeau français, qui a été initié, alors c'est très long, je ne vais pas le raconter maintenant, qui a été initié par Clovis. C'est Clovis qui a été le chercher la chape à Noirmoutier, plus d'un siècle après la mort de Martin, Saint-Martin, et qui en a fait son emblème pour se protéger justement. Et ensuite, alors après le bleu, il y a eu toute une période de notre histoire où la France baignait dans le bleu. Les vitraux, le bleu de Prusse, etc. Et d'ailleurs, l'Europe est bleue. Le bleu, et alors c'était très cool parce que
c'est la couleur du manteau de la Vierge, également.
Alors, c'est le manteau de la couleur de la Vierge, exactement. Lorsque, par exemple, les graveurs, les fabricants de vitraux se sont aperçus, enfin l'Église surtout, s'est aperçue que avant les ciels étaient noirs, la terre était noire, que ça plaisait pas trop aux fidèles. Ils ont eu l'idée de faire le ciel bleu, la terre bleue, enfin de mettre du bleu partout. Et c'est ce qu'on a appelé le bleu cathédrale. Et le manteau de la Vierge, vous avez tout à fait raison de le signaler, est bleu. Donc il y a, et en plus, quelle est la signification du bleu? Alors vous avez des gens comme Michel Pastoureau, qui sont des grands personnages, historiens de la couleur, héraldistes, etc., sur lesquels je me suis beaucoup appuyé aussi pour pouvoir expliquer certaines choses. Le blanc, vous avez cité le blanc. Alors le blanc, oui, on dit toujours c'est la royauté. D'abord, c'est Jeanne d'Arc. C'est aussi
la pureté,
bien sûr, la pureté virginale de la France. Je vous l'ai dit, c'est Jeanne d'Arc. Et puis, c'était le pavillon de la marine. Alors, le drapeau blanc, il était ou fleurdisé ou pas, parce que la fleur de lys est aussi un symbole extrêmement complexe. Il y a des études, des thèses sur la fleur de lys. Le rouge, bien le rouge, on dit c'est la révolution. Non, c'est pas la révolution. C'est Blandine, c'est l'écharpe de Blandine trempée dans son sang, cette jeune chrétienne de 15 ans, que Sainte Geneviève a récupéré son écharpe, et quand Clovis est devenu roi, quand il est devenu chrétien, elle lui a offert, lui est roi très chrétien, etc. Et ce rouge, c'est aussi Charlemagne, c'est aussi l'emblème de Charlemagne. Donc c'est pas uniquement Pour revenir quand même à la Révolution française, c'est là le 27 pluviose en deux que les trois couleurs ont été rassemblées et sont devenues le symbole de la France. Il faut rappeler aussi que le rouge a été pendant une période la couleur de la bourgeoisie et pas uniquement des révolutionnaires. Absolument, bien sûr, tout à fait.
C'était le cinéaste et romancier Raphaël Delpart, enregistré lors du Salon du Livre d'Autun en avril 2012 pour présenter la fabuleuse histoire du drapeau français. Le dernier ouvrage de Raphaël Delpart date de février 2019 et s'intitule « Le combat des pères ». Il est disponible aux éditions Du Rocher. Il s'agit d'une enquête et d'un dossier sur le sort des enfants injustement privés de leur père et également sur le sort des pères injustement privés de leurs enfants, le combat des pères de Raphaël Delpart. Pour l'heure, place à une nouvelle pause musicale, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Place cette fois-ci à l'histoire politique de notre pays avec un extrait d'un entretien enregistré avec Patrice Duhamel fin septembre 2017 lors du salon Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Patrice Duhamel connaît bien la politique, c'est un journaliste, c'est le frère de Alain Duhamel. Et Patrice Duhamel m'a confié qu'il s'était rendu au cours de sa carrière de journaliste durant 50 ans plus de 3000 fois au palais de l'Élysée, Alors connaît-il les 365 pièces de ce superbe bâtiment qui est la résidence de notre président de la République ? Pas évident qu'il les connaisse tous. En tout cas, dans son livre intitulé « L'Élysée, histoire, secret, mystère », Patrice Duhamel laisse entendre qu'une malédiction planerait sur l'Élysée. Patrice Duhamel.
Oui, parce qu'il y a à peu près la moitié des présidents de la République qui n'ont pas terminé leur mandat. Soit parce qu'ils ont démissionné, soit parce qu'ils ont été contraints à démissionner, soit parce qu'ils sont morts. Et donc, on en est aujourd'hui au 25e président. Il y en a une douzaine qui n'ont pas terminé leur mandat si on part de Louis-Napoléon Bonaparte.
Est-ce que ce palais est fonctionnel ? Parce que De Gaulle avait pensé s'installer aux Invalides.
Au château de Vincennes.
Au château de Vincennes également.
Oui, au musée Rodin, dans l'hôtel particulier du musée Rodin. Non, le palais, il est absolument pas fait pour y travailler. Tous ceux qui y ont été, que ce soit des présidents, des conseillers, ont bien expliqué que c'était pas fait pour y travailler. C'est un palais qui était fait pour y habiter, pour faire la fête. C'est dans cet esprit-là qu'il a été construit en 1720. Ça va faire bientôt 3 siècles. Il y a des grands salons d'apparat somptueux, splendides, pour y faire des réceptions. Mais par exemple, sauf à aménager difficilement des grands bureaux, il doit y avoir 3 salles de réunion à l'Élysée. Et en dehors du bureau présidentiel avec une salle de réunion à côté, c'est quand même très mal commode. Il faut monter dans les étages et descendre en permanence. Bon, c'est pas un exploit physique non plus, mais enfin, disons que c'est assez compliqué. Et puis, alors ça, c'est un autre aspect de la vie quotidienne à l'Élysée, c'est qu'on sent le poids de l'histoire. Quand on rentre dans le bureau du président de la République, on a l'impression qu'on va croiser le général de Gaulle. Voilà, et c'est vrai un peu partout dans le palais.
Est-ce qu'on peut envisager un jour un autre lieu où le président de la République pourrait siéger? Est-ce que les Français sont prêts à abandonner l'image du palais élyséen?
On peut tout envisager, mais d'abord, ça coûte très cher même. Et ensuite, il y a eu récemment, avant le premier tour de la présidentielle de cette année, ça devait être en février ou en mars, un sondage sur l'image du palais de l'Élysée. Et près de 70%, enfin plus des 2/3 des Français ont dit qu'ils aimaient ce palais, qu'ils y étaient attachés et que pour eux, il n'était pas question d'aller ailleurs. Voilà, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de 3 siècles d'histoire de France. Il s'est passé des choses tout à fait extraordinaires.
Des mariages, des divorces,
des suicides, des morts, des malaises mortels, des présidents. On parle souvent du malaise mortel. Alors, c'est pas du tout de même nature. Hein. On parle souvent du malaise mortel de Félix Faure dans les bras de sa maîtresse. Mais on sait moins qu'un jour où le frère aîné du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, venait voir son frère, il a eu un malaise et qu'il est mort... quelques temps plus tard. Voilà, il y a eu beaucoup de choses dramatiques dans ce palais, mais il se passe rarement 24 heures sans qu'il y ait un événement particulier.
Ce qui est incroyable, on parle de la mort des présidents, alors certains ont été assassinés, alors qu'aujourd'hui, il y a, une sécurité presque sans faille autour des présidents de la République. Enfin, elle n'a jamais montré de défaillance, mais Sadi Carnot a été assassiné. Il y a eu aussi Paul Doumer qui a été
absolument.
Assassiné par un fanatique russe. Là, c'est en 1932.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer la sécurité du président éventuellement être prise à défaut ?
On peut tout imaginer, parce que les débats sur le terrorisme sont des débats sans fin, mais... Si quelqu'un veut, s'il y a un commando qui veut absolument assassiner le président de la République, je pense qu'il pourra peut-être y arriver. Vous avez parlé des deux présidents de la troisième qui avaient été assassinés. Pas oublier qu'il y a eu 4 attentats contre le général de Gaulle par l'OAS, dont le plus célèbre étant celui du petit Clamart, où s'il n'y avait pas eu le geste miraculeux du chauffeur qui a réussi à accélérer la DS au moment où elle était criblée de balles, il y a 9 chances sur 10, tout le monde l'a dit, le général lui-même, qu'il soit vraiment assassiné par le commando Bastien-Thierry.
De Gaulle avait dit « ces gens-là tirent comme des cochons, je crois ».
Oui. Enfin, il leur en voulait surtout parce qu'ils avaient tiré sur une voiture où il y avait une femme et ils savaient qu'il y avait une femme. Et qu'en plus, le patron du commando, qui a été d'ailleurs exécuté, Bastien Thierry, il n'avait pas tiré lui-même. De Gaulle considérait que pour un militaire, c'était pas bien de ne pas tirer. Il avait donné l'ordre, mais il n'avait pas tiré lui-même. Donc voilà, il trouvait qu'il y avait une forme de lâcheté.
Alors on
mais
a dit...
À l'Élysée, je m'imagine mal que le président puisse être attaqué. À l'extérieur, encore une fois, tout peut arriver. Kennedy a été assassiné... Des coups de feu ont été tirés contre Reagan et on sait que la sécurité américaine est encore plus pressante et plus organisée et plus nombreuse que la sécurité autour des présidents français.
Alors les présidents vivent à l'Élysée hein, avec leur famille, certains divorcent. Alors, il y a eu le divorce Sarkozy avec Cécilia en 2007.
Un seul divorce, c'est celui de Sarkozy avec Cécilia.
Alors, il y a eu aussi François Mitterrand et la fille cachée. Là, on rentre dans la partie secrète. Une fille cachée qui était connue de quelques très, très proches de François Mitterrand. Peut-être Michel Charras, Badinter.
Oui, André Rousselet, Robert Badinter, Roland Dumas. Je dirais une petite dizaine. Voilà, mais qui ont tenu leur langue jusqu'au moment où il y a eu cette fameuse photo à laquelle, selon toute vraisemblance, Mitterrand lui-même n'était pas opposé.
C'est Jean Edernalier qui a révélé...
Jean Edernalier a voulu révéler l'existence, mais le livre n'est jamais sorti. Alors, mais bon, c'est une information qui circulait dans les rédactions, mais il est vrai qu'aucun journal français n'a fait état de cette fille et qui était pourtant née en décembre 1974. Donc ça durait... Quand son père a été élu président de la République, elle avait déjà presque 7 ans.
En fait, il faut le dire tout de même, Patrice Duhamel, c'est que cette double vie, cette deuxième famille de Mitterrand a été protégée et nourrie quand même sur le
absolument,
compte du contribuable français, il faut le dire.
Absolument, ils habitaient dans des appartements qui normalement accueillent des conseillers ou des responsables du cabinet du président de la République, qui est Branly, à côté de la Tour Eiffel. Mais à partir du moment où sont des proches du président de la République, je pense que si les gens n'ont pas été choqués au-delà des polémiques classiques, c'est que je pense que l'opinion comprend qu'il faut protéger tous ceux qui sont proches du président et qui peuvent être considérés de près ou de loin comme des cibles. Donc voilà, c'est assez naturel. Et quand il y a eu les deux familles réunies le jour des obsèques de François Mitterrand, les Français, tous les échos qu'il y a eu ont été plus émus que choqués.
Alors, on a parlé ce matin de la maladie des présidents de la République, de l'état de santé des présidents de la République, qui fait l'objet souvent d'un bulletin officiel émis par l'Élysée. Il y a eu, bien sûr... Alors, vous avez parlé de Paul Deschanel en rappelant que c'était un homme extrêmement brillant. Alors, on a oublié qui était l'obscur Paul Deschanel, préféré effectivement à Clémenceau, d'ailleurs.
C'était un polytechnicien de grand talent qui avait fait une carrière politique assez jeune, qui était le fils d'un grand scientifique, Émile Deschanel, qui était l'un des meilleurs amis de Victor Hugo, ce qui fait que Paul Deschanel en question était le filleul de Victor Hugo, parce que les deux familles s'étaient réfugiées en Belgique au moment du Second Empire. Et c'était un président qui a été élu en 1920 pour succéder à Raymond Poincaré, à un moment où tout le monde imaginait, après le triomphe de Clémenceau en 1917 et en 1918, que Clémenceau serait président de la République. Mais il avait tellement d'ennemis qu'il a compris qu'il n'avait aucune chance de gagner, donc il ne s'est pas présenté. Et c'est ce responsable politique qui n'était quand même pas non plus un homme de premier plan. Il n'avait jamais été président du Conseil, par exemple, qui a été élu. Et le malheureux a été atteint d'une maladie mentale au bout de quelques semaines, ce qui fait qu'il y a des épisodes célèbres. Le plus célèbre étant celui où il descend d'un train, il tombe sur la femme d'un garde-barrière qui lui demande qui il est et à qui il répond qu'il est président de la République, etc. Mais on sait aussi qu'il grimpait dans les arbres de l'Élysée pour aller dialoguer avec les corbeaux dans un langage que je ne connais pas. Que de temps en temps, il se mettait à signer Vercingétorix ou Napoléon Ier son courrier, que quand des visiteurs venaient le voir de temps en temps, il les prenait dans les bras en serrant tellement fort que certains risquaient d'être étouffés, etc., etc. Ce qui fait qu'il a dû démissionner au bout de 6 mois. Et voilà le destin de ce président Deschanel.
Alors, sous la Ve République, il y a bien sûr la maladie du président Pompidou.
Il y a 4 présidents sur 8. Macron est l'8e. Il y a 4 présidents sur 8 qui ont été sérieusement, gravement ou très, très gravement malades.
Alors, De Gaulle, déjà.
Alors, De Gaulle, qui, 4 ou 5 ans avant de revenir, enfin, avant de la fin de la traversée du désert et avant d'être élu président de la République, avait eu une alerte grave avec une rupture d'anévrisme et qui, pendant son premier mandat, a eu une grave opération de la prostate qui l'a quand même éloigné de l'Élysée pendant 3 semaines. Aujourd'hui, ça paraît invraisemblable. Un président qui est absent pendant 3 semaines pour raison de maladie, ça paraît invraisemblable. Ensuite, il y a bien entendu Georges Pompidou, qui a su qu'il était malade gravement sans savoir exactement la nature de la maladie en 1972, donc 2 ans avant la fin de son mandat, qui a énormément souffert, qui a été d'un courage absolument extraordinaire. Mais ça a été, de ce qu'on explique dans le bouquin, c'est que ça a été à la fois un secret et des mensonges, puisque à un moment où il était chez lui, il venait 1 heure par jour ou 2 heures par jour à son bureau. Le travail était fait par son secrétaire général, Édouard Balladur, par ses conseillers, Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Il annulait des grands dîners, il annulait des déplacements, il avait des malaises quasiment en permanence. Et on disait qu'il avait soit une grippe à répétition, soit des hémorroïdes. Donc, voilà. Et ensuite, Mitterrand, bien entendu, qui a su qu'il était malade dès l'automne 81, c'est-à-dire 6 mois après son élection, et qui quand même est resté 14 ans à l'Élysée. Mais les 2 dernières années, il était vraiment dans un état absolument effrayant, des souffrances insupportables. Et on peut légitimement se poser la question de savoir si il pouvait, jusqu'à la fin, s'il y avait eu une grande crise politique, sociale, économique, financière, internationale, militaire, s'il avait pu... Alors certes, on était en cohabitation, une grande partie du pouvoir était exercé à Matignon par Édouard Balladur, mais est-ce qu'il aurait pu exercer ses responsabilités dans leur plénitude ? On peut légitimement se poser la question. Et rien n'est prévu dans la Constitution.
C'était Patrice Duhamel, enregistré fin septembre 2017 lors du salon Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. Patrice Duhamel, qui est l'auteur aux éditions Plomb d'un essai intitulé « L'Élysée, histoire, secret, mystère ». Notre émission Wagon Livre touche pratiquement à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Je vous rappelle que samedi prochain, 6 juin, je recevrai devant ce même micro Éric Le Senet pour un recueil de fables intitulé « Fables d'aujourd'hui ». Éric Le Senet, journaliste en presse, radio et télévision, il est l'auteur et le réalisateur de clips musicaux, de captations internationales, de films de prestige et de documentaires diffusés par toutes les chaînes françaises et dans le monde entier. C'est un passionné de littérature, il est lauréat du prix de poésie Olivier Basselin de l'Académie normande des lettres, lauréat du prix de poésie Ouest-France et du prix Printemps des poètes de TV5 Monde. C'est un observateur de l'évolution des médias depuis 30 ans et il a créé depuis 2010, à l'heure de la télévision connectée, des web magazines originaux tout en vidéo, et il a également créé dans la Nièvre, à Clamecy, Clamecy Télévision. En tout cas, c'est Éric Le Senet qui sera en notre compagnie samedi prochain, 6 juin, toujours à 11h sur Radion. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver bien évidemment sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Vous y retrouvez les noms des personnes dont nous avons repassé des extraits d'entretien, les titres de leurs ouvrages et les références pour se les procurer. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous saluer. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.